L'imposture, deuxième partie, chapitre premier. Au silence méprisant de M. Guéroux, le pauvre Pernichon répondit de son mieux par un courageux sourire. L'œuvre de M. Sénabre est bienfaisante, déclara Mgr Espelette. Je n'en veux pour preuve que la malédiction des sots. Sa voix frêle se força si drôlement sur la dernière syllabe qu'il crut devoir achever par une petite toux aiguë de coquette. Et il secouait ses deux mains fines comme pour supplier qu'on l'oubliât. Alors M. Guéroux se retourna dans son fauteuil, faisant péniblement virer sur ses épaules sa tête énorme et molle, où resplendissait pourtant un regard inoubliable. Il le fixa sur l'évêque à la mode avec une curiosité inouïe. Une minute même, son visage déformé par la graisse exprima quelque chose de ce regard, mais les muscles cédèrent aussitôt, et une espèce de sourire crispa la bouche encore belle pour se perdre dans le repli des joues, la cascade de chair qui descendait jusqu'à sa poitrine, serrée dans un gilet de velours grenat. « Je ne sais qui l'accuse, ni de quoi, » fit-il de sa voix grave. Jadis la théologie m'a souvent consolé de la politique, mais est-il encore un homme au monde capable de mener au terme ces controverses d'une si émouvante subtilité que nos bavardages les plus vifs semblent grossiers par comparaison. Il fit signe de la main à un petit homme chauve. J'ai entendu conter que les familiers de M. Combes et le ministre lui-même. C'est un renseignement inexact, répondit l'inconnu d'une voix sans timbre. L'éminent homme d'État, dont je m'honore d'avoir été 10 ans l'humble collaborateur, n'a jamais pris part devant moi à de telles discussions, et il avait trop de respect des consciences pour courir volontairement le risque d'y jeter le trouble par simple curiosité. Son indifférence en matière de métaphysique m'a toujours paru d'ailleurs absolue. Que de bêtises n'a-t-on pas dites ou écrites sur un tel sujet, s'écria de son coin sombre le vicomte Lavoine de Duras. Il fit suivre cette exclamation d'une gamme de sourires discrets. Nos persécuteurs étaient au fond assez bons diables, convenons-en. La diplomatie romaine a multiplié les gaffes. Pour faire excuser ce mot hasardeux, il le prononça sur un ton suraigu. Que votre grandeur me pardonne, l'Église n'a-t-elle pas eu, à un moment décisif, dans la personne de Pie X, son Chambord ? Un discret murmure souligna cette allusion à la période héroïque de la vie d'une nièce stérile, jadis pourvue d'un emploi de sous-préfet par la grâce de son cousin Doudoville, qui jouait depuis le rôle de grand seigneur démocrate et voltairien, bien que le vieux cœur puéril redoutât presque également la révolution et l'enfer. Par-dessus la table à thé, l'évêque de Pommiers lança vers son naïf interlocuteur une œillade assassine, puis caressant sa joue du bout des doigts, ainsi qu'une fille met son rouge, il souffla entre ses dents. « La gaffe n'est-elle pas un des instruments du pêcheur ?» De nouveau, le regard de M. Guéroux brilla d'une lueur furtive, et le même sourire glissa sur sa face, sans parvenir à s'y fixer. L'ancien collaborateur de M. Combes fit un pas en avant et tendit deux doigts pétrifiés. « Permettez-moi d'applaudir, commença-t-il, mais déjà M. Guéroux venait au secours de l'éminent prélat. « Faites comme moi, Jumillac, dit-il. Apprenez donc à savourer paisiblement votre part d'un mot délicat, sans nous annoncer si bruyamment votre plaisir. « Permettez, fit l'orateur, permettez. Je n'entendais pas souligner. Je voulais seulement dire que c'est l'honneur de l'Église romaine et que ce sera peut-être son salut de conserver dans son sein. Monseigneur agréera volontiers le témoignage évidemment impartial d'un ancien membre du consistoire de Paris, s'écria généreusement Pernichon. L'évêque de Pommiers salua. J'ajoute que, depuis des années, je suis dégagé de toute préoccupation doctrinale, ajouta l'ancien chef de cabinet d'un ton sec, en laissant tomber sur l'auteur des lettres de Rome un regard maléfique. Laissez-moi tirer la conclusion, supplia Monseigneur. Il enveloppa son auditoire d'un sourire irrésistible. Nous sommes ici entre amis. Le cœur se délivre. Il appuya l'index sur un des boutons de sa soutane. Toutefois, ne donnez pas à ma boutade un autre sens que moi. C'était une malice sans la moindre amertume, quelque chose comme une plaisanterie filiale. Nos prêtres dans nos diocèses s'en permettent sans doute sur nous de plus dur, conclut-il avec un sourire paternel. Mais à l'autre extrémité du salon célèbre, le vicomte Lavoine de Duras, dressé sur les argots, criait à l'oreille d'un grand garçon calamiteux, vert de rage, « Nous ne voulons pas, nous n'admettons pas, il ne saurait être toléré. »« Quoi donc ?» demanda M. Guéroux. M. Jérôme me rapporte à l'instant une conversation inqualifiable entendue à Florence chez le prince Ruggieri. On parle de faire échouer la candidature de M. Sénabre à l'Institut par une nouvelle condamnation arrachée par surprise à la congrégation de l'Index. « Je n'approuve pas la mesure, » protestait M. Jérôme, livide. « Vous n'approuvez pas, » hurlait l'imbécile déchaîné, « mais néanmoins vous la jugez fatale. C'est déjà là, si je ne m'abuse, une manière d'approbation. » « Je prends mes sûretés en vue du pire, monsieur le vicomte, » dit Jérôme, décidément hors de lui. D'ailleurs, le chanoine Sénabre est de taille à se défendre seul. Toutefois, si pareil abus est inévitable, une mesure compensatoire s'impose, et nous l'obtiendrons aisément, j'en ai reçu l'assurance, de la haute équité des mêmes juges. « Je sais à quelle mesure vous faites allusion, » fit doucement l'évêque de Pommiers, « mais ne craignez-vous pas qu'une parole indiscrète ?» Il tira de sa poche un minuscule étui de nacre et goba deux pastilles coup sur coup. « Sa grandeur a raison, » dit Madame Jérôme, jusqu'à l'heure muette. « Ces controverses entre nous ne mènent à rien. » Elle prit dans son sac pour la dixième fois une mince plaquette et parut s'absorber dans la contemplation de la couverture rose. Depuis la veille, elle méditait de l'offrir à Mgr Espelette et cherchait à ce moment une occasion favorable. C'était là ses dernières poésies, éditées grâce à la générosité d'un amant. Elle s'intitulait « Amant vainqueur » et était dédiée à son mari. « Je vois entre les mains de notre gracieux confrère, » remarqua M. Guéroux avec son habituelle perfidie, « un livre tout neuf. Je sens d'ici, pauvre infirme, la page fraîche. Si mon vieux nez ne ment pas, je flaire en même temps une odeur bucolique, et parie pour de nouveaux vers. » « Vous avez gagné, maître, » fit douloureusement la pauvre fille, dont un flot de bile inonda les joues, car elle ne doutait pas d'être encore prise au piège de son vice familier, mais sa vanité toujours béante ne redoute que le vide et trompe d'abord sa faim. Elle avança d'un pas. « Puis-je offrir à votre grandeur, » dit-elle, « ces menus essais, où son indulgence ne voudra sans doute retenir que l'intention. Je n'ai rien à donner au public, sinon les humbles joies de ma vie domestique, et leur seule sincérité fait le prix de ces simples poèmes. J'attendais leur publication avec impatience, » dit aimablement le prélat, reposant le livre sur ses genoux. On me l'avait d'ailleurs annoncé. J'ai écrit à ce sujet quelques lignes dans les annales chrétiennes, soupira le lamentable Pernichon. Il est réconfortant pour nous tous, alors que la religion sert de prétexte à tant d'œuvres confuses, d'une qualité d'émotion si trouble, parfois impure, mais de nouveau l'impétueux vicomte jetait le gant. « J'avoue mon incompétence, » fit-il. « Cependant, qu'il me soit permis de dire que nous sommes submergés par une vague de mysticisme dont l'excès, sa démesure, outre qu'elle est susceptible de décourager les bons esprits, surexcite le fanatisme antireligieux. Ce qu'on ose ouvertement reprocher à mon éminent ami Sénabre, c'est d'avoir écrit sur la sainteté des livres sages, accessibles aisément à tout homme cultivé, d'un intérêt passionnant, mais fait néanmoins pour contenter le philosophe et l'historien. Peut-être l'historien l'emporte-t-il parfois sur le philosophe, ou du moins sur le strict théologien, concéda Mgr Espelette, mais il faut tenir compte aussi de l'importance des positions prises par la critique rationaliste et de la nécessité où nous nous sommes trouvés de nous mettre au pas coûte que coûte. Car l'Église, là comme ailleurs, ne doit se laisser devancer par personne. Il posa délicatement sur le guéridon son petit poing fermé, sans doute dans l'illusion de marquer ainsi son indomptable résolution de vivre et mourir à l'avant-garde de son siècle. La hardiesse de ce prêtre ingénieux n'abuse toutefois personne que lui. Sa lâcheté intellectuelle est immense. Impuissant à la concevoir, car son être tout entier défaillant échappe à n'importe quelle méthode loyale de mesure, ne présente aucun point fixe. Il n'en a pas moins la conscience obscure de ce qui lui manque, et il ressent ce manque, au plus creux, et au plus chaud de son âme chétive et caressante, sa vanité. Le choix qu'on a jadis fait de lui a pu surprendre, mais n'a pas néanmoins fait scandale, car on le savait actif, instruit, gracieux jusqu'à l'importunité, empressé de plaire et de mœurs irréprochables. Nul autre de ses prédécesseurs n'empoigna la crosse avec un plus vif désir de bien faire, de se donner sans réserve. Comme toutes les fortes passions de l'homme, l'ambition nous entretient dans un singulier état d'indifférence à l'égard d'autrui, qui ressemble chez les plus vils à une sorte de candeur comparable à la sinistre image, dans la corruption de l'âge mûr, des illusions de l'enfance. Comme l'enfant qui jette les bras au sein maternel et croit donner le monde avec le baiser de sa bouche blonde, l'ambitieux n'apprend que tard, et par une cruelle expérience, à haïr ceux qu'il dépouille, car d'abord il les aime, trop heureux de commander pour n'espérer pas d'être obéi avec transport. « Désormais, je vous appartiens », disait Mgr Espelette à ses diocésains dans son premier mandement. Et tandis qu'il écrivait ces mots, son secrétaire particulier, déjà tout enflammé d'un saint zèle, et avide d'admirer son maître, le vit ruisseler de larmes et pensa défaillir lui-même. Hélas, nul n'est moins digne d'amour que celui-là qui vit seulement pour être aimé. De telles âmes, si habiles à se transformer au goût de chacun, ne sont que les miroirs où le faible apprend vite à haïr sa faiblesse et le fort à douter de sa force, également méprisé par tous. Son désappointement fut tel que le malheureux put le sentir à travers la triple épaisseur de son orgueil ingénu. Il s'offrait, que demandait-on de plus? Sa bonne volonté n'allait pas au-delà, et ce malentendu fut sa ruine. On ne pense qu'à l'infortune des fous, et Telso connaît plutôt une pire solitude. Certaine médiocrité d'âme, partout véniale, peut faire de la vie d'un prêtre une aventure absurde et tragique. Les idées de l'évêque de Pommiers, ou du moins ce que sa suffisance nomme ainsi, sont celles du plus pauvre universitaire. Incapable d'une trahison délibérée, avec une foi d'enfant qui résiste à tous les caprices de sa cervelle légère, il a fait ce rêve insensé d'être seulement le prêtre dans le temps, et il l'est dans l'éternité. « Je suis de mon temps, » répète-t-il, et de l'air d'un homme qui rend témoignage de lui-même. Mais il n'a jamais pris garde qu'il reniait ainsi chaque fois le signe éternel dont il est marqué. Comment s'en aviserait-il? La conscience se tait. Pas une fois le danseur n'a touché terre, n'a repris contact avec un sol ferme et sûr. Il s'agite dans un élément sans consistance, plus ténu que l'air, et l'observateur qui regarde d'en bas ne saurait prêter aucun sens à ses détours imprévus. « Je tourne l'obstacle, » dit-il encore. Mais dans le vide où il trace ainsi sa route illusoire, effacé à mesure, le pauvre homme ne recherche que lui, il est l'objet de sa poursuite, il est à lui-même la proie convoitée. Car prêtre par état et peut-être par vocation, une part de lui-même n'en conspire pas moins sans cesse contre l'ordre dont il est le gardien. Là est le tragique de sa misérable destinée. Aussi l'évêque de Pommiers croit-il au progrès, et il s'est fait de ce progrès une image à sa mesure. Cet agrégé, et qui porte son titre avec tant de fierté, a pu s'enrichir de notions sans délivrer son intelligence de la tyrannie de ses entrailles. Il pense avec les haines, les amours, les envies et les rancunes de son adolescence, et telle phrase de lui qu'on cite pour sa hardiesse ou sa nouveauté n'est réellement que l'expression abstraite d'une humiliation subie dans sa jeunesse, mais toujours brûlante. Une telle bassesse fait la risée des gens au pouvoir, dont l'infortuné brigue l'amitié, bien qu'il ne lui dispense à son insu qu'un cordial mépris, car les partis triomphants haïssent ordinairement leurs flatteurs. C'est en vain qu'il prodigue les gages, écrit des lettres retentissantes, se montre à chaque occasion entre un pasteur et un rabbin, dispute humblement leur place à ses fonctionnaires officiels. Jamais son orgueil n'a connu tant d'amertume, mais il est à cet âge où les erreurs et les vices de la jeunesse deviennent la chair et le sang, finissent par être aimés pour eux-mêmes, à proportion de ce qu'ils coûtent de déception et de larmes. « Monsieur l'abbé Sénèbre nous a confirmé dans notre foi, » reprit Monsieur Jérôme, « que les premières paroles de l'auteur des poèmes à mon vainqueur avaient paru tirées brusquement de sa réserve habituelle, à en juger au moins par une rougeur furtive, d'ailleurs à peine visible sur le grain épais de sa peau. Il glissa son regard entre les paupières mi-closes vers le plaintif pernichon, car s'il n'entend louer personne sans un serrement de cœur, sa propre femme, plus qu'aucun être au monde, exerce sa douloureuse envie, et il n'était pas prêt de pardonner au jeune Auvergnat malchanceux son admiration indiscrète pour une intolérable rivale. Ayant ainsi tourné vers lui tous les regards, il inclina par un mouvement familier, sur l'épaule droite, sa petite tête triangulaire et de sa meilleure voix diplomatique, dont le son grêle et fêlé surprend toujours, ainsi qu'un pernicieux présage. Au profit du critique et de l'historien, on oublie trop le prêtre, dit-il. Pour être sans ostentation, son zèle est néanmoins connu de quelques-uns qui pourraient rendre témoignage de lui, si un scrupule honorable ne leur fermait probablement la bouche. Sans doute, je n'ai pas l'honneur d'être l'un de ses favorisés, mais j'en sais assez cependant pour sourire de certaines médisances perfides ou même d'un certain silence qui n'est pas toujours désintéressé. Je ne surprendrai pas tout le monde ici en disant que M. l'abbé Sénabre, pour quelque privilégié, est un conseiller, disons le mot, un confesseur incomparable. Il passa doucement les doigts sur ses favoris aux poils rares et tristes, parut savourer en connaisseur le silence qui suivit. Tous les regards se tournèrent vers M. Pernichon. « Je suis de ces privilégiés dont vous parlez, dit-il. Du moins, j'en étais encore il y a peu de temps. Mais je ne suis désormais plus rien pour M. l'abbé Sénabre qu'un admirateur respectueux de ses lumières et de son talent. « Pourquoi donc ? » s'écria Mme Jérôme avec une étourderie affectée. L'imperceptible murmure qui s'éleva de toutes parts la fit rougir à son tour, et elle reprit d'une voix étranglée qui se raffermit peu à peu. « Je parais sans doute bien audacieuse, mais n'est-il pas vrai, monseigneur, qu'un homme tel que M. l'abbé Sénabre échappe en quelque mesure à la loi commune, et qu'en sa faveur il est permis d'être indiscrète ?» La décision de M. Pernichon peut avoir été prise fort naturellement, sans qu'il soit nécessaire de supposer. « Faites-moi taire !» s'écria-t-elle en riant de toutes ses dents blanches. « Je ne me tirerai pas toute seule de ce pas difficile. Je suis une abominable curieuse, voilà tout. » Elle enveloppa son mélancolique adversaire d'un regard indéfinissable, où le simple mépris le disputait à une sorte de compassion maternelle, car elle ne désespère pas encore de joindre un jour à son riche butin cette petite proie, et elle le plaint sincèrement de ne savoir oser. Mais, à l'extrême surprise de tous, M. Pernichon répondit avec une extraordinaire vivacité « Je n'ai plus revu M. l'abbé Sénabre depuis son retour d'Allemagne. » Il prit son temps, et comme malgré lui, terrifié de sa propre audace, d'une voix dont il s'efforçait de dissimuler en vain le chevrotement anxieux, il ajouta « Je ne le reverrai d'ailleurs jamais plus. » Cette parole étonnante tomba dans un silence glacé. Puis on entendit une sorte de grincement bizarre et sinistre qui s'acheva sur une note aiguë. M. le vicomte Lavoine de Duras exprimait son mécontentement par un petit rire. « Je suis désespéré d'avoir été la cause involontaire, » commença Mme Jérôme. « Ne vous désespérez pas, charmante madame, » interrompit Mgr Espelette, serrant entre ses deux paumes une main imaginaire. Notre jeune ami s'est fait mal comprendre. Il est trop sage et trop réservé pour engager si imprudemment l'avenir. Grâce à Dieu, nous le voyons encore à cet âge heureux où le mot « jamais » n'a pas de sens et ne saurait en avoir. Disons du moins que c'est un mot bien imprudent, bien peu sage, remarqua Monsieur Guéroux, paternel. Mais nous sommes ici en famille, bien que dans un heureux état d'indépendance absolue à l'égard des uns et des autres. Et si, oh Dieu ne plaise, notre liberté n'était entière, il conviendrait d'abord de respecter celle du plus jeune et par conséquent du plus vivant d'entre nous. Nul autant que cet homme étrange ne sait tirer d'un incident banal, d'une parole, d'un regard même, ce qu'il recèle de vérité douloureuse, de tragique en puissance. Le moindre frémissement, les plus petites ondes de souffrance sont ainsi perçues par cette espèce de sens infaillible, et son extraordinaire sensibilité les capte aussitôt, ainsi qu'un récepteur délicat. Toute volonté qui fléchit, ou que travaille une imperceptible fissure, toute âme inquiète et défaillante est immédiatement discernée, comme aperçue du haut des airs, et sa curiosité plonge dessus. Curiosité si pénétrante, si avide, que le malheureux qu'elle éprouve en subit malgré lui la contagion, comme ces femmes dont la sensualité s'émeut dès qu'elles approchent, sans le savoir, d'un désir fixe et secret. À ces indulgentes paroles, le trouble de M. Pernichon s'accrut, et le cercle parut se resserrer autour de lui dans une espèce d'agitation silencieuse. J'ai pris à regret cette décision, et j'aurais voulu. Il eût été préférable de garder le silence. Si je n'avais eu des raisons de craindre que mon changement d'attitude, à l'égard d'un maître toujours vénéré, ne risquât d'être interprété maladroitement, défavorablement, une certaine médisance, peut-être. De tels scrupules, père de la jeunesse, dit à l'autre bout du salon une voix très douce. La vie est indulgente. Elle arrange tout, il suffit de se servir d'elle avec ménagement, ainsi qu'on utilise un explosif dangereux, non pour creuser d'un coup la mine, mais pour détruire un par un les obstacles qu'on ne peut réduire par le pic ou la pioche. Permettez-moi de vous le dire avec la simplicité d'un homme de mon âge, qui n'a que de la sympathie pour un jeune confrère bien doué, ardent au bien, et d'une ambition légitime. Depuis quelque temps, mon cher Pernichon, je déplore certaines imprudences, d'ailleurs véniales, disons certaines démarches imprudentes, qui s'accordent mal avec ce que nous savions de vous, de votre modération, de votre tenue, de votre précoce maturité. Soyons francs, votre article de l'Aurore Nouvelle, par exemple, a fait trop de bruit pour être loué. Ayant ainsi parlé, M. Catani reposa lentement, prudemment, dans les coussins sa tête exsangue. Le féroce vieillard dont personne au monde ne pourrait probablement citer une ligne, car il n'a jamais écrit depuis plus d'un demi-siècle que sous des pseudonymes impénétrables et dans des feuilles obscures et éphémères, où il ne fait que paraître, ainsi qu'un voleur dépiste les gendarmes de garni en garni, n'en a pas moins la réputation, auprès d'habiles naïfs plus lâches que lui, et pour parler leur étonnant langage, d'un informateur religieux de très grande classe, dont les arrêts sont sans appel. Le coup, sans doute inattendu, fit de nouveau trébucher Pernichon, qui depuis un moment s'efforçait de retrouver son calme, pareil au dualiste qui, après une première bousculade, a perdu toute notion de la distance et prend timidement ses mesures du bout de l'épée devenu aveugle. « Je ne comprends pas, dit-il. Je croyais au contraire avoir été agréable à M. Dufour, en effaçant la mauvaise impression produite par un éloge, peut-être imprudent, de l'œuvre de l'assistance dominicale dont il juge le programme dangereux. Permettez, fit l'ancien membre du consistoire d'un air de dignité politique, je crains que vous ne commettiez ici une erreur involontaire. M. Pernichon rougit de colère. Je l'ai de mes propres oreilles entendu dire. C'est une question de date, remarqua M. Jérôme, les yeux étincelants dans un visage immobile. « Mon cher Pernichon, vous avez tort de négliger les dates. Avant d'agir, prenez conseil du calendrier. » « J'ai dû parer au plus pressé, » déclara M. Catani, sans daigner regarder sa victime par une note intéressée en dernière heure au... Il murmura le nom d'une feuille inconnue. « Plutôt que d'accabler notre jeune ami, vous seriez plus sage de l'instruire, » dit Mgr Espelette, auquel l'embarras du malheureux faisait visiblement pitié. Sa faute, si faute il y a, me paraît à moi bien légère. Il se retourna vers Pernichon. « Ces messieurs ne veulent que vous rendre service, mon cher enfant. Ne vous échauffez donc pas. » Depuis que M. le Président du Conseil, par un geste qui l'honore, a fait choix de M. le Baron Dufour en l'élevant au rang de sous-secrétaire d'État au ministère du Travail, il est possible... Il est probable même que notre éminent ami se trouve tenu d'observer une certaine réserve à l'égard d'une œuvre, d'ailleurs d'inspiration toute chrétienne, puisqu'elle a la bienfaisance pour objet. Et d'ailleurs subventionnée par le ministre en personne, nota M. Jumillac. « Je le savais, cria Pernichon, mais l'œuvre italienne que patronne Monseigneur le Nonce... « Qu'il n'en soit pas question, trancha M. Catani, chaque chose en son temps, mon cher confrère. » Il haussa les épaules avec dépit. L'œuvre à laquelle vous faites allusion, ou pour parler plus exactement, la section française de cette œuvre, doit faire prochainement l'objet d'un rapport considérable à l'Académie des sciences morales, dont M. Petit Tamponnet est l'auteur. Le fait est connu de tous. Néanmoins, M. Lavoine de Duras... Parfaitement exact, fit le comte. J'ajoute que l'initiative de mon collègue M. Petit Tamponnet est extrêmement ingénieuse et hardie. Je n'ai pas l'honneur d'être précisément ce qu'on appelle un homme politique. Outre la jeunesse, il y faudrait encore une ambition que je ne connais plus. Mais je note, j'observe, je marque les coups avec intérêt. Vous souriez, mon cher maître, dit-il à M. Guéroux. De plaisir, répondit presque tendrement l'infirme en déplaçant avec peine son buste énorme. Il y a toujours profit à vous entendre, car vous avez le secret d'un art que je croyais perdu, d'être frivole dans les choses sérieuses et sérieux dans les frivoles. Le regard de M. Lavoine de Duras exprima quelque inquiétude, mais ce ne fut qu'un éclair. Résigné à ne trouver que trop tard une réponse impertinente, il se contenta d'agiter sa petite tête vide et sonore, comme pour chasser un insecte invisible, et l'inclina vers le gros homme, à tout hasard, d'un air d'ironie complice. Je n'ai aucun mérite à résoudre un problème aussi simple. Cette bagatelle est à la portée d'un enfant. Il s'agit de donner à M. le Doudon une pure satisfaction d'amour-propre, ce que j'appellerai, si vous le voulez bien, une satisfaction académique. M. le Doudon s'est beaucoup dépensé en faveur de l'œuvre franco-italienne, dans l'espoir légitime de voir appuyé par Mgr le Nonce sa candidature au siège sénatorial de feu mon ami de la Béconnière. Cette candidature est devenue indésirable depuis que la concentration républicaine a obtenu dans le nouveau ministère un portefeuille de sous-secrétaire d'État. Et pour une autre raison encore, remarqua mystérieusement M. Jérôme, l'échec de M. l'abbé Hochegourde dans la Creuse a été dû à l'opposition du semeur chrétien. Or, M. Hochegourde appartient au groupe le plus avancé de la Fédération démocratique laïque, dont le programme a sans doute des parties excellentes, mais risquait de nous compromettre un peu vis-à-vis de l'aile droite du Parti catholique, dont l'évolution est très lente et qui s'en tient prudemment à la tradition radicale socialiste, au chauvinisme près. Monseigneur Espelette éleva vers le ciel ses petites mains blondes, où l'améthyste jeta son double éclair. Épargnez-moi, cher ami, épargnez la faiblesse de l'âge. Je sais les nécessités de l'heure, j'envie la hardiesse de vos jeunes militants qui rêvent de devancer l'évolution au lieu de la suivre. Je les vois prendre la tête de ces grandes masses démocratiques, avec leurs idéaux si divers et leurs innombrables drapeaux, pour les amener un jour, frémissantes et domptées, au pied du siège romain. Je vois. Nous ne voyons rien, nous, monseigneur, interrompit sèchement l'ancien membre du consistoire. L'avenir sera ce qu'il sera. Nous le servons tel quel. L'évolution démocratique est une des lois de la nature, et non pas seulement un fait politique que chacun peut se croire libre d'interpréter ou de solliciter à sa guise, dans un sens ou dans l'autre. En serions-nous donc encore là, l'immense mouvement de libération sorti de la réforme ? De grâce, calmez-vous, cher et vieil ami, supplia Mgr Espelette. Ne parlons pas de ce qui divise. Ne portons intérêt qu'à ce qui nous unit. Gloire aux âmes de bonne volonté. J'ai été passionnément démocrate dans ma jeunesse, en un temps où il y avait encore quelques périls à l'avouer. Aucune réforme sociale ne me fait peur, et je crois néanmoins n'avoir jamais cessé d'être, selon mes forces et mes lumières, un prêtre irréprochable. Il est si simple et si doux de vivre en paix avec les hommes. Et que faut-il ? Croire à la sincérité de tous, inébranlablement. Sans doute on s'expose ainsi à souffrir de quelques déceptions inévitables, mais le nombre en est bien petit. J'arrive à la fin de ma carrière, du moins de ma carrière active. Eh bien, je dois ce témoignage à mes semblables, j'ai connu très peu d'insincères. Il baissa un moment les paupières pour mieux entendre le discret frémissement de sympathie qui fait chaque fois chanceler son cœur et les yeux mouillés de vraies larmes. Mon cher monsieur Jérôme, ne prenez donc pas au sérieux un mouvement de révolte involontaire. Je sais dans quel sens exact, concret, le terme de chauvinisme peut avoir dans votre vocabulaire de technicien que vous l'utilisez objectivement sans haine ni mépris. Au sens élevé, humanitaire, universel du mot, vous n'êtes pas moins bon patriote que moi-même. Je vous fais néanmoins cet aveu pour n'y plus revenir. L'excellent abbé Hochegourde m'effraie un peu. Monsieur Jérôme, furieux d'avoir été interrompu, fit un geste vague et courtois, tandis que monsieur le comte Lavoine de Duras et monsieur Catani prenaient ensemble la parole. Mais le chevrotement de l'ancien préfet fut d'ailleurs bientôt couvert par une voix patiente et douce. C'est abordé, il me semble, beaucoup de problèmes, et des plus vastes, à propos du seul monsieur Pernichon, qui ne m'en voudra pas de voir avec regret renaître des discussions que nous avions abandonnées jadis d'un commun accord. « Je m'excuse, » déclara monseigneur Espelette, avec beaucoup de dignité, d'un petit accès d'emportement. Monsieur Jumillac l'interrompit. « Pour rien au monde, » fit-il, « je ne voudrais moi-même risquer de compromettre une bonne et cordiale entente de plusieurs années sous le premier prétexte venu. C'est notre honneur à tous de rechercher ensemble, loyalement, dans de libres entretiens, à nous éclairer les uns les autres. En ce qui me concerne, j'ai conscience de n'avoir rien abdiqué, même par simple courtoisie à l'égard d'adversaires que je respecte. » Il salua l'évêque de Pommiers, « des droits sacrés. Tous les droits sont sacrés pour quiconque prétend à leur usage. Mon cher monsieur Jumillac, » reprit monsieur Catani sans élever le ton. Je me permettrai de féliciter plutôt monsieur Guéroux, l'hôte éminent qui nous rassemble, de savoir esquiver, avec un tact exquis, des discussions de principe qui nous auraient bientôt séparés. Dieu sait quel service son aimable scepticisme nous a ainsi rendu. J'avoue qu'en dépit de mes préférences, il m'arrive bien souvent de m'en inspirer dans les limites de ma modeste action. Puissent des jeunes gens comme notre ami ne pas compromettre par un excès de zèle involontaire les résultats péniblement acquis.
Je ne sais à quoi vous faites allusion, dit Pernichon qui sentait sur lui le regard apitoyé de M. Guéroux et croyait déjà y lire son destin. J'ai agi au contraire avec la dernière prudence. Je ne vois pas encore comment mon initiative pourrait compromettre l'effet attendu d'un rapport de M. Petit Tamponnet qui doit toucher un public bien différent. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'opposition de M. l'abbé Hochegourde à la candidature de M. Le Doudon, il n'y a pas d'opposition, remarqua M. Jérôme, plus sèchement que jamais. Dans une affaire de cette importance, je m'étonne que vous puissiez employer ce mot ridicule. Permettez, je ne suis pas un enfant, s'écria Pernichon. Je n'ignore pas l'importance de la mission dont est chargé M. Hochegourde. Encore une imprudence, mon cher confrère, commença M. Catani. Je parle ainsi en toute franchise et pour vous seul, supplia M. Pernichon. En vérité, depuis 2 mois, il m'est impossible de faire un pas, de prononcer une syllabe, d'écrire une ligne, sans rencontrer une sorte d'hostilité.
Hostilité ? Glapit M. Lavoine de Duras.
Je maintiens le mot, cria l'infortuné journaliste. Il y a là autre chose qu'une simple sollicitude.
Vous êtes injuste envers ceux qui vous veulent du bien, dit M. Catani.
Sur son visage glacé, où les yeux font 2 taches sans aucun éclat, une rougeur solennelle parut.
Je ne parlais pas ainsi pour vous, monsieur, balbutia M. Pernichon.
Le regard de M. Guéroux, l'espèce de compassion qu'il y croyait lire, et dont il ne pouvait comprendre la véritable nature, loin de lui rendre le calme, ne lui inspirait plus qu'une obstination désespérée.
Je vous en prie, mon ami, mon cher enfant, suppliait Mgr Espelette qui ne comprenait pas. Vous vous exaltez terriblement.
Depuis 2 mois, je ne puis rien faire qui ne soit aussitôt blâmé, du moins critiqué amèrement. Hier encore, Madame Ponto de Mer se jugeait gravement offensée par le silence que j'ai gardé sur la campagne menée contre son frère par certains journaux réactionnaires. Or, j'avais pris conseil. On avait cru plus prudent de laisser les médisances tomber d'elles-mêmes. Qu'ai-je fait ? J'ai sacrifié 2 articles déjà prêts, promis à mon journal. J'ai dû les remplacer au dernier moment par un compte-rendu des fêtes de Sienne.
C'était un bon sujet, brillamment traité, dit doucement M. Catani. Cela vous convient à merveille. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la veine de vos premières lettres de Rome ?
Je ne demandais pas mieux, gémit Pernichon. On exploite contre moi des fautes imaginaires ou de simples étourderies que tout le monde peut commettre. Mon directeur est excédé. Je le sens prêt à supprimer par dépit sa chronique religieuse. Il ne s'est décidé qu'à contre-cœur, sur mes instances, à faire une place dans son journal à nos informations. Je ne sollicite pas de louanges, mais enfin, l'Aurore Nouvelle a un tirage plus élevé que n'importe quelle autre feuille de sa nuance, et l'influence politique de M. Tétard est considérable, surtout depuis la formation d'un ministère Mongenod. D'où vient cet acharnement à me perdre dans l'esprit d'un directeur qui, bien que communiste, israélite et franc-maçon, a sur les problèmes religieux les vues les plus larges, les plus pénétrantes. « Nous savons que votre responsabilité est fort grande, » dit mélodieusement M. Catani. « Je le sais aussi, » s'écria Pernichon, avec une émouvante sincérité, l'expression d'un immense espoir, car il venait d'interpréter tout à coup, dans un sens favorable, les paroles du puissant augure. « Elle pèse trop lourd sur vos épaules, » continua l'autre, imperturbable. « De l'avoir accepté, que dis-je, sollicité même, est une première faute. Vous en avez commis une plus grave encore en cédant à l'entraînement du jeu, en déployant une activité, pardonnez-moi, hors de proportion avec vos mérites, avec votre expérience surtout. » Il s'interrompit une seconde, passa un petit mouchoir sur son front blême. On entendit, dans le silence, la respiration courte de ses poumons rongés de phtisie, comparable au froissement d'un papier de soie. Pernichon le regardait fasciné. Jusqu'à ce moment, et tout au long des interminables semaines où il avait senti peu à peu, lentement, mystérieusement, tourner sa chance, il avait compté sur ce dernier appui, contre toute évidence, avec le superstitieux entêtement du joueur. Sans doute, nul ne fut jamais si sot, ni si chimérique, d'espérer gagner l'amitié d'un tel homme, car on sait sa patience et sa douceur inaccessible, impitoyable, aussi ferme qu'un mur d'airain. Mais il n'est pas impossible de tirer quelque avantage de son indifférence, ou même de son mépris, car on l'a vu parfois utiliser de ses sauts inoffensifs, et les associer pour un temps à ses entreprises, ou du moins aux obscures machinations et méditations qui les préparent, sa haine étant terriblement lente à s'échauffer. « Je ne croyais pas, je ne pensais pas, » balbutia le jeune Auvergnat à frapper au cœur. « Avoir mérité autre chose de vous que des critiques, des observations, dont j'étais prêt d'ailleurs à tenir compte, respectueusement, filialement, permettez-moi de le dire. Tandis que ce jugement d'ensemble, cette espèce de condamnation de mon passé et de mon œuvre, il tourna de tous côtés son pauvre visage enflé de larmes, et se leva brusquement, tenant toujours serré le dossier de sa chaise d'une de ses mains tremblantes. « Ah, 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 ah !» fit M. Guéroux dans un bâillement. On entendit le petit rire étouffé de Mme Jérôme, que l'assistance reprit aussitôt en cœur, mais sur le ton d'une taquinerie respectueuse. « Vous étiez assoupi, cher maître, ne le niez pas !» s'écria Mgr Espelette. « Il est bien possible, » répondit M. Guéroux, en promenant sur son visage sa main énorme et molle, toute rose. « Mon infirmité n'était que laide, elle va devenir discourtoise, repoussante. Je sens couler dans mes veines un sang épaissi par la graisse, ma pauvre cervelle n'en peut plus. Je m'assoupis ainsi, comme on meurt. » Il se retourna en gémissant, prit sur le guéridon un verre d'eau glacée, le vida d'un trait, et à l'unanime surprise, essayant de jeter en avant son corps inerte, et le regard plus aigu que jamais, « Cher Pernichon, » fit-il, comme s'il n'avait rien perdu de ce qui venait d'être dit, « vous êtes plein de science, de talent, de bon vouloir, et vos relations sont nombreuses et belles. Mais il faut vous guérir, s'il en est encore temps, d'un vice qui menace de réduire à rien toutes ces précieuses qualités. Je vois que vous voulez de la sympathie. Vous êtes altéré de sympathie. Cette sorte d'obsession maladive est plus dangereuse qu'aucun vice. Elle a mené au désespoir et même au tombeau des gens mieux armés que vous n'êtes. » À l'exception de l'évêque de Pommiers, dont le sourire ne s'altère pas aisément, et qui approuva doucement de la tête, chacun reçut ces paroles ambiguës avec un certain frémissement. M. Catani pâlit. « J'admire, au contraire, ce grand désir d'être loué, » dit-il. Pour moi, je ne l'ai jamais connu. Les circonstances de la vie, mon goût de l'histoire, une certaine connaissance des hommes, et ma médiocre santé aussi en est cause, ne m'ont inspiré qu'un grand éloignement pour le bruit, les vaines disputes, les grandes entreprises téméraires, voilà tout. Je n'ai voulu être qu'un simple publiciste qui met au service d'une église, tournée désormais vers l'avenir, plutôt son expérience que son talent.
C'est ce que je disais, répondit M. Guéroux insolemment. Voyez-vous, cher Pernichon. Permettez, fit M. Catani sans cesser le sourire. Laissez-moi poser une question à M. Lavoine de Duras.
Est-il vrai que M. de Noailhac ait été reçu par sa sainteté en audience secrète dès le début du mois?
Je l'atteste, dit le vicomte. Nous le savons depuis une semaine déjà.
Le Saint-Siège juge sévèrement certaines initiatives, hardies, condamnables même. Il voit sans plaisir la place faite à nos chroniques religieuses dans quelques organes d'opinion très avancés. Je tiens d'ailleurs le renseignement d'une source sûre.
Il est exact, dit M. Jérôme, à telle enseigne que j'ai supprimé dans ma dernière chronique le paragraphe sur les affaires de Syrie.
Serait-ce donc, soupira M. Catani, qui ne respirait plus qu'avec beaucoup de peine, mortifier encore inutilement notre jeune ami que d'attirer son attention sur la probable, la vraisemblable inopportunité de la grande enquête qu'il médite de publier prochainement dans son journal sur l'évolution de la conscience religieuse en France et en Allemagne ?
Mon enquête ! Cria Pernichon.
Ce fut comme le cri de ses entrailles, le cri de stupeur d'un homme touché par un coup porté à fond.
Mais enfin, pourquoi, messieurs ?
Voulut protester une dernière fois l'évêque de Pommiers.
Mon enquête, reprit le grotesque, devenu terrible.
Il respira douloureusement, pressant des deux mains sa poitrine. Puis ses mâchoires remuèrent avec violence, sans qu'il proférât aucun autre son.
Jeunesse, dit M. Guéroux.
J'ai seulement prononcé le mot d'inopportunité, remarqua M. Catani, qui flairait de loin avec inquiétude le dernier sursaut de sa misérable proie. Sans doute qu'un peu de patience.
La patience, donna Pernichon.
Il essaya vainement de ravaler sa salive. Sa gorge était serrée comme par une convulsion tétanique, et il sentait à grands coups battre son cœur. Enfin, les mots trouvèrent leur issue. Sa colère jaillit ainsi qu'un flot de sang.
L'inopportunité, la patience, cria-t-il. Je verrai donc perdre en un moment le fruit du travail de 18 mois.
Alors que dimanche encore, vous, monsieur Catani, vous-même, corrigiez de vos propres mains mes notes sur l'affaire de Hagenau.
La patience, quelle atroce plaisanterie!
Comme si vous ne saviez pas mieux que moi que ces sortes d'enquêtes, qui exigent un labeur énorme, doivent paraître à leur heure, sont étroitement liées aux événements qui les inspirent, comme si...
Mais publiez-la quand même, jeune homme, grinça le vicomte Lavoine de Duras dans le tumulte. Quel incroyable scandale!
La publier, dit Pernichon, ou la publier désormais? Je vois clairement la manœuvre. On s'est joué de moi. Je suis étranglé, car mon directeur ne supportera pas cette dernière déception. Ma chronique disparaîtra des colonnes de l'Aurore Nouvelle. On m'aura volé jusqu'à mon pain.
Oui, tandis qu'on m'encourageait à une initiative aussi dangereuse, aussi hardie, qui devait consacrer ma carrière, ou la compromettre sans retour, toutes les précautions étaient prises pour retarder la publication, puis la rendre impossible au dernier moment.
« Je ne vous permets pas !» commença M. Catani. Mais il dut aussitôt serrer son mouchoir sur sa bouche pour étouffer un hoquet sinistre. La peur donnait à son visage une expression intolérable.
« Messieurs, je ne comprends vraiment plus. De grâce, messieurs !» suppliait Mgr Espelette au désespoir.
« Pourquoi veut-on me perdre ?» poursuivait Pernichon d'une voix déchirante. « J'ai eu quelques succès. Je les devais à mon travail, à la chance, que sais-je. Ils n'ont fait de tort à personne. Mais depuis que M. Sénabre m'a congédié, car il m'a congédié, je sens qu'on a décidé ma ruine. »
« C'est de la folie !» jeta M. Jérôme si froidement que le calme se fit tout à coup. Alors seulement on entendit la voix de M. Catani.
« Je vous pardonne une telle agression, si inattendue, si injuste. » Il parlait dans un souffle. « J'ai toujours aimé la jeunesse, mais, convenez-en vous-même, personne ici ne peut plus douter à présent que j'ai pu juste. Vous ne vous possédez pas assez.
Il faut se posséder. Qui ne sait se posséder n'apprendra jamais rien de ce que le dernier d'entre nous devrait savoir. Qui ne sait se posséder ?
Parlons-en ! S'écria Pernichon d'une voix si stridente que Madame Jérôme se boucha une oreille du bout de son doigt ganté.
Pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser. Toutes mes excuses, dit le comte Lavoine de Duras en agitant vers son hôte une main qui tremblait de lassitude et d'écœurement. Je crains qu'il me soit impossible d'approuver le ton que va prendre une discussion. D'ailleurs, ce tour provocateur, personnel.
Asseyez-vous, répondit M. Guéroux impassible. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que cela peut vous faire, cher ami ?
Il était beaucoup plus pâle que de coutume, et bien qu'il souriât encore vaguement, par habitude, on eût pu deviner à un certain sifflement de ses narines, à un certain pli de ses énormes bajoues striés de rouge et de bleu, qu'il serrait fortement les mâchoires. D'ailleurs, personne ne parut remarquer cette espèce d'exaltation. Le vicomte Lavoine de Duras s'assit.
N'insistez pas, Pernichon, dit M. Jérôme. Vous répondrez plus tard, vous expliquerez.
J'approuve entièrement, paternellement, commença Mgr Espelette, rose et confus. Mais le publiciste auvergnat, pendant cette rapide passe d'armes, et toujours debout, n'avait fait que présenter tour à tour à chacun des interlocuteurs son front blême, ainsi qu'une bête acculée. M. Catani s'agita douloureusement sur sa chaise, puis se tint tranquille et parut résigné à tout entendre. Le silence fut tel qu'on entendit distinctement M. Pernichon reprendre haleine.
« On ne me fera pas taire, » dit-il enfin. « Mon enquête sera publiée coûte que coûte. Je me défendrai. »
M. Catani interrogea des yeux Mgr Espelette, puis Jérôme, puis Guéroux. Alors seulement, il murmura, et si bas qu'on entendit mal,
« Contre qui ?»«
Contre vous !» cria Pernichon de la même voix glapissante qui avait exaspéré Madame Jérôme. « Demain, il serait trop tard. Je ne vous retrouverai plus. D'ailleurs, ce que je fais est peut-être inutile. N'importe. Monseigneur, Monseigneur, » reprit-il en tournant d'une pièce tout son corps vers l'évêque de Pommiers, dans un mouvement pathétique, « je vous jure, depuis un an, je n'ai pas fait un pas, je n'ai pas écrit une ligne sans sa permission. Avant-hier encore, oh, j'ai commis des imprudences, je le sais. J'ai mécontenté des gens puissants. À qui la faute ? Il était derrière moi, je le jure. Je vous veux conduire les yeux fermés. Voilà ce qu'il m'a dit. L'avez-vous dit ? Hurla le malheureux.
Incroyable, incroyable, répétait le vicomte Lavoine. Intolérable.
Une honte, une pure honte, ajouta Madame Jérôme.
Calmez-vous, je vous en conjure, dit Mgr Espelette, plus suppliant que jamais. J'avoue que ce malentendu.
Et M. Guéroux lui-même fit le geste d'un spectateur rebuté par un toréador maladroit. À peine si Pernichon entendit ce murmure de dégoût, mais à travers ses larmes de colère impuissantes, il vit son adversaire et comprit. Il comprit qu'il arrivait trop tard, que l'homme qui était devant lui n'était plus une proie pour personne, et qu'à s'acharner encore, il se perdrait sans le perdre. En une seconde, et comme entre deux éclairs, il sentit l'indifférence profonde, insurmontable, l'énorme indifférence de ces gens rassemblés, polis par la sottise, l'illusion ou le mensonge, polis par la vie, comme des galets par le flot. La révélation d'aucune lâcheté, d'aucune trahison n'était capable de ranimer en eux, même pour un instant, ce qu'ils s'étaient donné tant de peine à détruire, cette espèce de fierté humaine qu'ils méprisaient chez les autres, ainsi qu'une grossièreté, tour à tour dangereuse ou ridicule. L'élan désespéré du pauvre diable, sa sincérité mise à nu, loin de toucher leur cœur, les devait glacer, les fermer à toute pitié, n'était pour ces profonds calculateurs de choses frivoles qu'un spectacle répugnant. Si inconscients de leur propre faiblesse, mais ingénieux à la cacher, comment ne l'eussent-ils pas reconnu, avec honte et avec rage, chez le transfuge qui venait de sauter hors du cercle enchanté des convenances et fonçait droit devant lui, dans le public, pareil à un acteur devenu fou ? J'ai tâché de vous être utile, murmura dans un souffle M. Catani, de plus en plus livide. Ma pauvre expérience m'en donnait probablement les moyens. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais votre cruelle injustice. En vérité, il est moins possible que jamais de vous prendre au sérieux. » Il montra le creux de sa poitrine, de sa misérable main maigre, luisante de sueur, et fit comprendre qu'il souffrait. « Vous venez de commettre une mauvaise action, » dit Monseigneur Espelette avec feu, en se tournant vers Pernichon. « Il m'est pénible de le déclarer aussi publiquement, mais je n'ai plus le droit d'être indulgent. » Une seconde, tous purent voir le malheureux Auvergnat flotter sur le silence qui suivit, ainsi qu'un bouchon de liège.
« Vous connaissez l'homme dont j'ai parlé, » hurla-t-il. « Aucun de vous n'ignore. »
Mais il prit peur avant d'avoir porté à fond ce dernier coup, et au fléchissement de sa voix, en respira. « Monseigneur, supplia-t-il, ne me condamnez pas. Comprenez-moi. Veuillez me comprendre. Je n'ai aucune haine contre M. Catani, pas l'ombre. Je m'en veux de l'offenser. Mais enfin, voyons, je défends ma situation, mes moyens d'existence, ma vie. L'attaque n'est pas venue de moi, rendez-vous compte. Non, l'attaque n'est pas venue de moi. Je ne demandais rien à personne. J'avais une modeste ambition. Je faisais honnêtement mon métier. Pourquoi celui-ci m'a-t-il perdu ? Car il m'a perdu. Il a montré pour me perdre une adresse, une perfidie. J'en donnerai des preuves. Oui, je le prouverai. Je le prouve. Il bégayait affreusement, exprès, pour gagner du temps, car dans le désordre de sa pauvre cervelle, il voyait peu à peu, distinctement, la vanité de son accusation désespérée, l'impossibilité de fournir des preuves et qu'elle ne serait reçue de personne. Il avait perdu la partie. L'indignité de ce moribond, fut-elle démontrée, ne retarderait pas d'une minute le désastre inévitable. L'enquête ne serait pas publiée, ne pouvait déjà plus l'être. À quoi bon ? Et pourtant, alors il fit, pour regarder en face son adversaire, un effort inouï. Il lui cria dans la figure « Depuis des années, vous vous êtes ainsi servi de vos jeunes confrères. Vous en avez fait vos instruments. » Puis vous les avez jetés les uns après les autres. Qui vous a lu ? Personne. Quel titre avez-vous ? Aucun. Je vous défie de citer un homme en place, capable d'être votre répondant, de répondre de vous publiquement. L'expérience dont vous disposez est un mystère pour tout le monde. Mais quoi ? Vous n'avez jamais manqué de niais comme moi à compromettre. Erlange, Rousselette, Dumas Mortier. J'en pourrais citer 20 autres. C'est vous qui avez perdu l'abbé de Lange, puis vous me l'avez fait exécuter dans le bulletin de Montmédy. Chaque effort que vous avez tenté pour sortir de l'ombre, où vous vous rongez d'envie, pour cesser d'être une sorte d'intermédiaire anonyme, a été payé d'un désastre pareil au mien. Le mien sera inutile comme les autres, entendez-vous ? Inutile, parfaitement inutile. Jamais, jamais, au grand jamais, vous ne forcerez l'entrée de la presse, c'est moi qui vous le jure. Vous m'avez volé ma place, vous ne l'aurez pas pour autant. On ne voudra pas vous l'offrir, et vous ne l'oserez pas demander. Vous n'oserez pas la demander. Voulez-vous savoir pourquoi, hein ? Vous voulez le savoir, c'est que vous êtes de moins en moins craint et de plus en plus méprisé. Il serait absurde de croire que ces paroles insensées furent écoutées en silence. À l'exception de M. Guéroux, chacun des spectateurs avait plusieurs fois tenté d'interrompre, et un véritable gémissement, tantôt aigu et tantôt grave, n'avait cessé de sortir des lèvres de l'évêque de Pommiers. Enfin, au dernier mot de l'auteur des Lettres de Rome, le désordre fut à son comble, et une espèce d'émeute eut sans doute éclaté si la curiosité la plus brûlante ne l'avait alors emporté sur l'ingratitude, car tous les regards s'étaient portés vers M. Catani, avec une impatience féroce. Rien ne peut plus troubler ces cœurs cruels, dont la légèreté est à l'épreuve de toutes les mauvaises surprises de leur incohérente vie, pourvu que soit préservé un certain accord indispensable, un certain rythme, que soient observées du moins certaines règles mystérieuses auxquelles leur faiblesse se conforme d'instinct. Leur petite société artificielle vit et prospère en vase clos, et les passions qui s'y développent, si violentes qu'on les suppose, ne s'y expriment qu'en signes conventionnels, sont soumises à un contrôle sévère, à une discipline formelle qui en modifie rapidement le caractère et les symptômes. À la longue, rien ne ressemble moins à un vice ouvert, intrépide, que le même vice, transformé par une dissimulation nécessaire, cultivé en profondeur. On peut faire cette observation partout, mais jamais plus utilement que parmi ces hommes singuliers qui vivent à distance égale du monde religieux et du monde politique pour s'entremettre patiemment, diligemment entre l'un et l'autre, maintenus dans l'ombre par la nature même de leurs manœuvres, toujours secrètes, intermédiaires officieux et sans cesse désavoués, esclaves nés des circonstances et des conjonctures, démagogues honteux, orthodoxes suspects, n'ayant rien en propre, ni la doctrine qu'ils empruntent naïvement au parti triomphant, ni même le langage, calqué bizarrement sur le style des rapports et des mandements, avec ce tour impayable qu'une certaine littérature a propagé dans le monde. De servir une ambition démesurée, une envie exaltée jusqu'à la haine maladive du genre humain, sous les apparences sacrilèges du zèle apostolique, quelle gageure! Quelle entreprise déraciner les âmes! Comment ne pas prendre en pitié ces misérables que l'hypocrisie professionnelle, parfois presque inconsciente, a rendu si sensibles à l'air du dehors, au moindre choc, qui ne peuvent durer qu'à force de précautions et de soins minutieux, que le plus petit élan de sincérité détruirait sans doute, car ils ne sont plus en état de supporter une si forte dépense de leur être. Et comment encore ne pas accorder quelque admiration, malgré tant de rivalités sournoises, à l'étroite solidarité qui les rassemble, à travers un monde hostile, ainsi qu'un malheureux troupeau. Le premier cri de colère de Pernichon les avait d'abord frappés de stupeur, puis révoltés. D'ordinaire, un silence glacial, une muette réprobation eût suffi à faire rentrer le coupable dans le devoir. Mais il avait cette fois passé outre. Alors le groupe s'était senti menacé, faisait front contre un danger commun. Si surprenant que cela puisse paraître, aucun d'entre eux n'était plus capable de prêter la moindre attention aux preuves données par l'accusateur, à supposer qu'il en fournit, et la démonstration rigoureuse, irréfutable, de l'infamie de l'accusé n'eût convaincu personne, n'eût pas même été entendue. Car toute violence leur est un outrage, les jette comme hors d'eux-mêmes dans une espèce de délire sacré. Pareil à ces chiens qui, entre deux adversaires, sautent à la gorge de celui qui crie le plus fort, leur premier mouvement est de haïr et de réprimer l'audacieux. Et ils attendaient tous avec curiosité pleine d'angoisse que M. Catani rétablît l'ordre, exécutât ce fou périlleux, d'ailleurs prêts à se satisfaire de n'importe quoi, de n'importe quelle réponse, pourvu qu'elle fût traitée sur le ton qu'il faut, qu'elle permît de rentrer dans les convenances et la gravité. « L'incident est clos », murmurait déjà entre ses dents le vicomte Lavoine de Duras. Et le nom même de Pernichon serait oublié à jamais, anéanti. Mais il n'appartenait qu'au seul Catani de rendre possible une aussi heureuse conclusion. Or, la déception fut immense. Le publiciste ténébreux, sous le déluge d'outrage, perdait visiblement pied, se débattait, cherchait du secours. Ses yeux tristes se fixèrent un moment sur l'évêque de Pommiers, avec une telle détresse que Mgr Espelette, scandalisé, détourna les siens par pudeur. Enfin, il bégaya péniblement. « On n'a jamais vu, est-ce possible, après avoir tant fait pour ce jeune homme, une telle intempérance de langage ?» Puis Catani parut rassembler ses forces, vaguement conscient d'avoir trompé l'attente de tous, honteux comme un acteur qui vient de saboter son rôle, mais d'une voix molle qui se rendait. Mon passé, la dignité de ma vie, la charité du chrétien me faisaient un devoir de laisser sans réponse une accusation calomnieuse, ramassée Dieu sait où. On me reproche d'avoir fait mon œuvre en silence, de n'avoir brigué aucun honneur public. Oui, j'ai fait ce sacrifice à mes convictions libérales et à ma foi religieuse, à mon respect du passé, à ma confiance dans l'avenir, de ne rien compromettre, de chercher constamment de ces formules d'union, de transaction, d'équilibre, qui gagneraient moins qu'elles ne perdraient à une excessive publicité. La petite influence dont je dispose. « Vous m'avez fait perdre dans l'esprit de M. l'abbé Sénabre !» s'écria Pernichon. Mgr Espelette se tordait les mains. Un nom comme celui-ci ne saurait être jeté dans un débat qui... « Ce n'est pas moi qui l'ai prononcé le premier !» dit l'Auvergnat. Monsieur l'abbé Sénabre était mon appui le plus sûr, mon protecteur, j'ose ajouter, mon ami. Par quel mensonge, par quelles insinuations ?
Laissez-moi, fit tout à coup Monsieur Catani, avec une plainte lamentable. Je ne suis pas en état de vous répondre.
Il porta aussitôt son mouchoir à ses dents, et d'un geste brusque de son poing fermé, le déchira de haut en bas. Mais il le cacha si vite et si honteusement au creux de ses deux paumes, qu'à l'exception du vicomte de Duras, muet de surprise, personne ne remarqua ce geste singulier, si peu attendu d'un tel homme. Ils entendirent seulement le grincement aigu de la toile. D'ailleurs, autour des antagonistes, l'agitation était à son comble, le désordre extrême. Madame Jérôme, pâle de rage, sommait l'ancien président du consistoire d'intervenir, tandis qu'appuyé au dossier du fauteuil, son mari lançait vers M. Pernichon quelques mots brefs et coupants que celui-ci ne pouvait entendre, tout occupé du vicomte qui le tirait brutalement par la manche et menaçait de le renverser. Enfin, il échappa et, dans le tumulte, à tue-tête, cria « Souvenez-vous de l'abbé Dardelle ! Souvenez-vous du 15 juin !» Il n'acheva pas, la main toujours gantée de Madame Jérôme s'étant appliquée avec force sur sa bouche. Un silence stupide régna aussitôt. Nulle force au monde n'eût empêché les spectateurs de se tourner vers la victime pour voir si le coup avait porté. L'histoire de l'abbé Dardelle est, en effet, l'épisode le plus tragique, le plus incroyable aussi, de la ténébreuse carrière de M. Catani. Le chroniqueur, alors connu surtout par ses intrigues auprès d'un évêque malheureux, exécuté depuis, passe à tort ou à raison pour avoir fait signer par ce jeune prêtre, inoffensif poète lyrique égaré dans la controverse moderniste, une petite brochure pleine de sucs et de poisons qui, bien que tirée en secret, à un nombre minime d'exemplaires, adressés tous à des amis sûrs, valut à son auteur supposé un blâme public et déshonorant, puis la censure et l'interdit. Son détestable et faible cœur n'en put supporter l'humiliation. Réfugié en Belgique, il acheva son désastre en épousant une maîtresse de piano wagnérienne, son aînée de 20 ans, laide et dure, qu'il aimait. Enfin, après avoir professé pendant quelques mois dans une université populaire de Liège, fondée par l'apôtre socialiste Van der Verde, il se tua d'une balle au front le 15 juin 1907. Il léguait, dit-on, sa bibliothèque, le manuscrit d'une thèse, des vers inédits et sa mandoline à M. Catani. Le vicomte Lavoine de Duras, saluant gravement, mais de loin, M. Guérou, traversa lentement la pièce et sortit. M. Pernichon, atterré de sa propre audace, ou peut-être délivré, suivait docilement Mme Jérôme, se laissait faire ainsi qu'un enfant. Sur sa barbe brune, un mince jet de salive pendait comme un fil d'argent. Mais la violence de l'injure parut rendre à M. Catani quelque chose de cette impassibilité célèbre où était venue se briser jusqu'à ce moment de plus forte haine que celle du publiciste malchanceux. Du moins, ses anciens amis purent l'espérer. Une minuscule tache rose s'élargit un peu sur sa joue et son mince visage, après un ou deux frémissements, s'immobilisa terrible. Je ne cherche aucune revanche, dit-il. Je vous plains. Vous n'êtes pas mûr. Vous n'êtes pas mûr, voilà le mot. Quel fruit pensez-vous tirer de votre puérile agression? Je crains au contraire qu'elle ne vous ait ce soir compromis inutilement. Qui ne préférerait un ennemi déclaré à un ami tel que vous? Je ne vous pardonne pas, du moins ici, en public. Mon pardon, en un tel moment, achèverait de vous écraser sans apaiser, je l'espère, le trouble de votre conscience. Un murmure d'admiration déchargea toutes les poitrines. Je connais les jeunes gens, je les aime, reprit-il avec un sourire d'agonie. Lorsqu'ils cèdent à une colère injuste, dès qu'on les voit perdre le sang-froid, le respect des aînés, d'eux-mêmes, et jusqu'au sentiment de leur propre intérêt, il y a 100 à parier contre un, qu'ils ne font que se venger ingénument sur autrui d'un remords généreux qui les travaille. Ils nous font porter le poids de leur faute. C'est qu'à cet âge, une faute est lourde à porter. On ne vit pas en paix avec elle, cher Pernichon.
il avança drôlement la lèvre inférieure et passa dessus sa langue. « Cher Pernichon, vous vous êtes perdu par trop de hâte à jouir de certains biens de ce monde. Vous avez cru, en toute bonne foi, ne devoir qu'à votre intelligence, qu'à votre talent, un petit succès mérité plutôt peut-être, au jugement des meilleurs et des plus clairvoyants de vos amis, par votre réputation d'excellent jeune homme, votre bonne conduite, votre esprit sérieux et réfléchi. Vous venez de dissiper ce soir une partie de cet inestimable trésor, ce qui vous en restait du moins, car nous sommes quelques-uns à connaître, à savoir. Enfin, vous aviez rêvé un riche établissement. Ceci n'est un secret pour personne. Le nom que je ne prononce pas est sur toutes les lèvres. Une si grande espérance vous a tourné la tête. Votre âge, cher Pernichon, nous autorise, je le crois, à parler ici entre nous, librement, paternellement, de vos petites affaires. Le patrimoine d'un jeune homme sans expérience est un peu la chose de tous et sous le contrôle et la protection des gens de bien. Les soucis d'argent, alors qu'on est prêt de toucher le but, qu'on n'a plus devant soi que cet obstacle abject, durcissent le cœur, vous rendent capable de beaucoup moins d'imprudence et peut-être d'infamie, telle que... N'en disons rien, enfin. Vous êtes le plus indulgent, le plus noble cœur que j'ai jamais connu, s'écria Monseigneur Espelette. Et dans son enthousiasme, il prit la main luisante et la pressa sur sa poitrine. Mais M. Catani ne souleva même pas les paupières. Il parlait d'ailleurs avec une lassitude accrue, à grand-peine, comme s'il récitait une ennuyeuse leçon apprise par force et qu'il eut hâte d'en finir au plus tôt. Bien que la riposte fût merveilleusement celle qu'on attendait de lui, ceux qui l'écoutaient y cherchaient en vain le ton, l'accent, ce je ne sais quoi qui donne à l'allusion perfide sa pointe et son fil, comme pour l'enfoncer dans le cœur. Les paroles enflammées du prélat ne dissipèrent point ce malaise étrange. Enfin, vous avez tort de penser que j'ai fourni sur vous le moindre renseignement défavorable. On ne m'en a pas demandé. À peine si l'occasion m'a été fournie de faire quelques réserves, d'accord avec votre éminent ami, M. l'abbé Sénabre, auquel j'ai avoué mon scrupule touchant l'embarras momentané dont je parlais il y a un instant. Ces dépenses excessives, peu justifiées. Mes dépenses excessives, gémit M. Pernichon. Non, non, fit-il en s'arrachant des mains de Mme Jérôme. Laissez-moi, laissez-moi tous, c'en est trop. Ah, je sais ce qu'il prépare depuis 5 minutes. Je le vois venir. Au moins, vous me permettrez, je vous expliquerai d'abord. Voyons, voyons, il sera temps de vous expliquer tout à l'heure, dit Monseigneur Espelette avec une douceur impitoyable. Et il ajouta ces mots, dont sa candeur était loin de concevoir l'innocente barbarie. Vous criez avant qu'on ne vous écorche, mon cher enfant. Je crois néanmoins avoir assez éprouvé ma bonne volonté, reprit M. Catani, visiblement à bout de force, et qui achevait de vider son venin comme on meurt, en vous prêtant 16 000 francs. Un cri unanime le paya aussitôt de sa peine. Ce ne fut pas même un cri, ce ne fut qu'un profond soupir, une sorte de plainte plus décisive qu'aucun cri. Nulle révélation ne pouvait être aussi accablante en un tel lieu, devant de tels gens, et préparée avec tant d'art. Pernichon, qui l'attendait cependant, eut un gémissement horrible, une convulsion de tout son pauvre corps disgracié. Puis il éclata en sanglots. « Vous les avez offerts, vous m'avez presque contraint de les recevoir. Oui, il me disait que je devais quitter ma chambre garnie de l'hôtel Léon XIII, m'installer convenablement, acheter des meubles, que c'était un sacrifice à faire indispensable, que le soin de ma carrière l'exigeait, qu'il était temps de m'imposer. Bien d'autres raisons encore, je vous en prie, comprenez-moi. La publication de mon enquête était décidée. Le volume retenu par les éditions Fides, je m'étais engagé à rembourser avant la fin de cette année. Que risquait-il? J'étais dans sa main. En la refermant, il me brisait. D'ailleurs, mon entrée dans la famille de... Eh bien, oui, qu'importe, vous le savez tous. Dans la famille Gidoux-Régoumet m'aurait permis de lui être utile. Oui, oui, voilà 10 ans que vous briguez la succession du comte de Vernier à la revue de l'univers. Quelle écume, dit seulement M. Jérôme.